Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
La Turquie est en route vers l'autocratie. C'est le titre de l'éditorial du journal Le Monde de ce matin. Article qui revient sur ce qu'il appelle un mirage. Tout commence en 2002, lors de son arrivée au pouvoir. Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, font de la Turquie un nouveau modèle qui se tourne alors vers l'Europe. L'armée perd de son influence, la séparation des pouvoirs se renforce, la presse revit, on amorce même des négociations avec les Kurdes. 14 ans plus tard, la situation est différente. Arrestation de journalistes, emprisonnement d'universitaires, détention d'avocats, reprise des hostilités avec les Kurdes du PKK. Au nom de la sûreté de l'État, dit-il, le président, il est devenu président, Recep Tayyip Erdogan, veut davantage de pouvoir, il veut un régime présidentiel. Et pour ce faire, eh bien, il peut compter sur son nouveau Premier ministre, Binali Yildirim, élu hier à la tête de l'AKP.
La chose la plus importante que nous ayons à faire à présent, a-t-il dit, est de normaliser la situation politique et de mettre un terme à la confusion. Pour ce faire, il convient d'adopter une nouvelle constitution et de mettre en place un système présidentiel.
Alors, régime présidentiel ou dérive autoritaire en Turquie, jusqu'où ira le président Erdogan? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Emre Demir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef et fondateur de l'hebdomadaire Zaman France. Zaman qui, dans sa version turque, a été mise sous tutelle par le régime. Ce n'est pas le cas de la version française. Deuxième invité, Selçuk Demir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, secrétaire général de l'Alliance des juristes franco-turcs et par ailleurs conseiller juridique du consulat général de Turquie à Paris. Je précise juste pour les auditeurs que vous avez le même nom de famille, oui, mais que vous n'avez aucun lien de parenté. Selçuk Demir, je voudrais qu'on commence cette émission par ce dont on vient de parler dans l'introduction, cette réforme constitutionnelle qui est en cours. Ce n'est pas un vœu personnel, mais une nécessité urgente, c'est ce que disait Recep Tayyip Erdogan, le président le 6 mai. Pourquoi une nécessité à votre avis?
Alors, c'est un secret en effet pour personne, hein. Le président Erdogan souhaite l'instauration d'un régime présidentiel en Turquie, mais il le souhaite d'abord et avant tout parce que le peuple turc le souhaite. Comme vous le savez, le peuple turc a délibérément fait le choix, justement, d'opter pour ce régime présidentiel. En 2007, le référendum qui a institué l'élection au suffrage universel du président de la République a été approuvé à plus de 68%. On a les dernières élections législatives de novembre qui ont consacré la victoire de l'AKP, justement, alors que l'AKP partait à la chasse aux voix en se fondant sur le projet de régime présidentiel. On a donc là un choix, certes, d'un homme politique, mais d'abord avant tout d'un peuple qui souhaite, en sa majorité, que le régime présidentiel soit établi en Turquie. Mais surtout, un régime présidentiel, pourquoi? Parce que ce régime présidentiel permet une stabilité de l'exécutif en Turquie qui, me semble-t-il, est impératif au regard de la situation interne et internationale. Comme vous le savez, le régime présidentiel, de façon générale, en droit constitutionnel, permet d'asseoir cette majorité et cette stabilité dont a besoin la Turquie. À titre d'exemple, et pour aller très très rapidement, la constitution française de 1958 a été établie justement dans cette volonté de stabiliser l'exécutif face à une quatrième république qui était instable, parce que c'était la République dite des partis.
Donc vous y voyez des arguments, de type légal. Qu'est-ce que vous en pensez, Emre Demir, de cette tendance, cette volonté d'aller vers un régime présidentiel? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous comprenez ce que veut Recep Tayyip Erdogan? Je souligne effectivement qu'il n'en a jamais caché son intention. C'était dans la précédente campagne et il a été élu, effectivement.
Oui, avant de revenir à votre question, donc juste pour préciser, en 2007, il y a eu un référendum constitutionnel pour permettre le suffrage universel pour le choix de président. Mais cet référendum n'était pas lié à le changement du régime parlementaire. Donc, selon la constitution turque actuelle, le président turc a un rôle quasi cérémonial.
Honorifique, et donc,
honorifique. Il faut absolument faire un autre référendum constitutionnel pour passer à le système présidentiel. Donc,
mais la nécessité de la stabilité de l'exécutif, ça correspond à quoi? Est-ce que l'exécutif est instable aujourd'hui en Turquie?
Je pense que la présidentialisation est devenue un peu le maire de tous les débats en Turquie. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans un régime assez autoritaire en Turquie. Et pour définir le régime actuel en Turquie, j'utilise le concept du populisme autoritaire. Donc c'est un concept inventé par le sociologue britannique Stuart Hall. Ça veut dire quoi? C'est un régime à la fois populiste et populaire et est à la fois aussi très autoritaire. Erdogan, justement, s'appuie sur un populisme nationaliste et très religieux pour légitimer des pratiques autoritaires. Donc, on peut résumer ce régime en trois axes. La domination charismatique, la création d'un culte de la personnalité autour d'Erdogan, la destruction des institutions étatiques et
donc, vous y voyez un pas vers l'autoritarisme, clairement.
Exactement. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans un système très autoritaire et il y a une personnalisation du pouvoir politique en Turquie. Il y a une hégémonie économique, politique et sociale de l'AKP qui est mise en place. Et donc, la transition vers un régime présidentiel, ça va créer en fait un régime quasi autocratique. Ouais.
Alors, Emre Demir, qu'est-ce que vous avez, Selçuk, par contre, Demir, qu'est-ce que vous répondez à cette qualification populisme, autoritarisme?
Alors, je pense que mon homonyme n'a pas véritablement étudié le projet de réforme constitutionnelle qui est à l'ordre du jour actuellement. Ce projet de réforme induit et instaure une séparation stricte entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, qui est, me semble-t-il, la base même d'un régime démocratique. Le système présidentiel permet, de façon extrêmement stricte et extrêmement équilibrée, de séparer ces trois pouvoirs, afin notamment de faire en sorte que le président puisse gouverner et que, éventuellement, bien entendu, l'Assemblée vote les lois et que les juges puissent juger. Ce qui doit être dit néanmoins, c'est que, alors même qu'on critique beaucoup ce glissement vers un régime présidentiel en Turquie, il faut...
C'est-à-dire qu'on a quand même un peu l'impression que cette réforme, elle est taillée sur mesure pour Erdogan, qui a été Premier ministre et qui, à ce moment-là, était content d'avoir des pouvoirs et qui, aujourd'hui, est président et veut récupérer des pouvoirs.
Quand on compare les choses, par exemple, par rapport à la France, la Constitution de 58 instaure un régime présidentiel. Sauf que, par exemple, Erdogan ne veut pas ce qui est permis en France pour le président de la République, à savoir, par exemple, dissoudre l'Assemblée nationale, ce n'est pas prévu dans le projet de réforme, ou par exemple un système analogue au 49-3.
Oui, mais sans comparer ce qui est incomparable, puisque les régimes français et turcs ne sont pas les mêmes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan veut récupérer des pouvoirs qu'il avait lorsqu'il était Premier ministre? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait à ce moment-là?
Non, il ne s'agit pas de vouloir récupérer un pouvoir. Il s'agit de clarifier définitivement les rôles des uns et des autres, et aussi de mettre en place sur le papier un mode d'exercice qui, de toute façon, existe aujourd'hui. Pourquoi il existe aujourd'hui? J'ai indiqué notamment l'importance de l'élection au suffrage universel. Élire un président de la République au suffrage universel, ça lui donne justement cette légitimité-là de pouvoir mener la politique du gouvernement. Et c'est pour ça qu'Erdogan veut clarifier les choses et veut instaurer ce régime présidentiel.
Bon, je crois que là-dessus, on a bien compris vos divergences. Emre Demir, ce qui est intéressant, c'est qu'a été votée il y a quelques jours l'immunité, la levée de l'immunité parlementaire, ce qui permet au gouvernement turc de faire passer cette réforme. Donc concrètement, quelle a été votre réaction à la levée de cette immunité qui permet par exemple à des députés pro-kurdes de ne pas pouvoir la voter?
Donc je pense qu'Erdogan, monsieur le président, a un agenda politique très très clair. Donc il n'a qu'un objectif en tête, c'est d'aller vers un référendum constitutionnel, probablement dans le mois d'octobre, au cours d'octobre. Donc l'acte numéro un, c'était de forcer Ahmet Davutoğlu, le Premier ministre, à démissionner, changer le gouvernement. Et l'acte numéro deux,
c'est ce qui s'est passé. Ahmet Davutoğlu a démissionné, il a été remplacé ce week-end.
On a remplacé Davutoğlu avec un loyaliste pur et dur, un ami proche d'Erdogan,
Binali Yildirim. Ancien ministre des Transports.
Et le deuxième cible, l'acte numéro deux, c'est de modeler, de faire le ménage au sein de l'opposition. Et le premier cible, c'était le parti pro-kurde. Donc, on essaye, Erdogan essaye de marginaliser, voire criminaliser le parti pro-kurde HDP en Turquie. Et il y a aussi le parti nationaliste turc. Donc, actuellement, il y a les opposants, les candidats à la tête du parti, comme Meral Akşener, etc. Donc, ils essaient de renverser le leader actuel, Devlet Bahçeli, qui a perdu la moitié de ses voix. Et c'est la police turque et la justice turque, aux ordres d'Erdogan, a empêché en fait le Congrès qui pouvait changer le leader au sein de MHP. Donc, c'est un presque surréel. Actuellement, Erdogan et ses médias soutiennent Devlet Bahçeli, un leader d'opposition, pour qu'il reste au sein de, dans la tête de parti parce qu'il est abonné aux défaites électorales. Donc il y a aussi cette volonté de modeler, de faire le ménage au sein de l'opposition.
Alors,
avant le référendum
précisément, constitutionnel. Précisément, faire le ménage au sein même de l'AKP avec Ahmed Davutoğlu qui a donné sa démission, qui était en désaccord avec le président. Selçuk Demir, est-ce qu'aujourd'hui des voix discordantes, y compris au sein de l'AKP, peuvent se faire entendre en Turquie?
Elles se font déjà entendre.
Et mais il a dû démissionner.
Elles se font entendre. Alors, Davutoğlu a démissionné, certes, mais ce qu'il faut, je pense, bien comprendre quand on analyse les choses en Turquie, c'est que le président de la République, le président Erdogan, est celui qui incarne aujourd'hui la voix d'une majorité de ressortissants turcs qui, depuis 10 ans, votent pour lui de façon constante et en lui accordant sa confiance de façon constante. On a aux législatives, aux municipales, aux référendums, à chaque fois, le peuple turc qui vote pour Erdogan et qui souhaite qu'il continue sa politique.
Il est vrai qu'il a été reconduit il y a encore quelques mois.
Le peuple turc vote pour un homme, a choisi de donner sa préférence à un homme. Il est donc, me semble-t-il, normal que cet homme incarne ce que l'électorat turc, en sa majorité, donne comme instruction. Et dans ce cadre-là, si ce leader naturel de ces voix majoritaires en Turquie décide de sa politique, je pense qu'il est normal qu'il puisse, en conséquence, décider de l'équipe avec laquelle il va travailler.
Emre Demir, comment vous expliquez ce paradoxe entre ce que vous dénoncez, un pas vers l'autoritarisme supplémentaire, et cette popularité avérée du président Erdogan et de l'AKP?
Justement, c'est pour ça que j'appelle ce régime comme un régime autoritaire et populaire. Pourquoi? Parce que déjà, le président turc, donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas qualifier le régime turc comme une dictature ou comme une autocratie parfaite ou un régime totalitaire. Pourquoi? Parce que le président turc reconnaît déjà la souveraineté de la légitimité électorale. Mais une fois élu, il considère que c'est lui qui a le droit de décider tout seul pour ce qu'il pense juste de payer. Donc en Turquie, il y a un régime assez majoritaire, donc on considère que les majorités s'érigent en totalité et les minorités doivent subir, obéir aux décisions du pouvoir sous menace d'être désignées comme ennemis de la nation, comme ennemis de la République.
Donc régime autoritaire, mais pas totalitaire, vous faites la différence.
Oui, parce qu'il y a toujours une possibilité d'alternance, il y a toujours une possibilité de renverser le régime. On joue toujours dans le jeu démocratique, mais il faut voir aussi que la justice est passée sous la main de l'AKP, la presse est muselée, et donc il faut ajouter aussi
Alors précisément, année après année, l'état des libertés publiques et des droits de l'homme n'a fait que se dégrader, selon de multiples organisations qui observent la réalité turque. Alors il y a eu évidemment en 2013 cette vague de répression qui a suivi les manifestations du parc Gezi à Istanbul. Bilan 6 morts, 5000 arrestations, procès contre des manifestations anti-gouvernementaux. Il y a depuis des journalistes embastillés, des défenseurs de droits de l'homme arrêtés, des avocats harcelés. Écoutez sur ce point Martin Pradel, il est avocat au barreau de Paris. Il est par ailleurs directeur des droits de l'homme de l'Union internationale des avocats. Il part demain mardi en Turquie, à Istanbul, pour défendre plusieurs de ses confrères qui sont poursuivis, dit-il, pour avoir fait leur métier, pour avoir tenté de défendre. Écoutez.
On leur reproche d'avoir été des avocats qui ont défendu des journalistes, qui ont défendu des avocats, qui ont défendu des académiciens, des sociologues. On leur reproche d'avoir simplement expliqué leur position et c'est vrai que ce faisant, ils ont une vision qui n'est pas celle d'une autorité étatique qui se fait de plus en plus omnipotente et qui tolère de moins en moins la contradiction. Il y a une sorte d'instrumentalisation assez systématique de lois qui sont les lois antiterroristes. C'est finalement toute altérité qui pose aujourd'hui problème en Turquie. C'est très très préoccupant.
Selçuk Demir, vous êtes vous-même avocat. Vous êtes par ailleurs le secrétaire général de l'Alliance des juristes franco-turcs. Est-ce qu'aujourd'hui l'indépendance de la justice est assurée en Turquie?
Alors d'abord et avant tout, la situation qui est dépeinte par Monsieur Demir en face de moi, me semble-t-il, ne correspond pas à la réalité, notamment concernant les critiques autour du régime supposé autoritariste. Je voudrais quand même préciser et dire assez rapidement que la Turquie dispose de partis politiques, d'opposition, qui ont chacun des possibilités de pouvoir s'exprimer à travers notamment des organes médiatiques qui les représentent. On a une presse et une société civile extrêmement active en Turquie, des centaines et des centaines.
Mais par exemple, Cumhuriyet, deux des journalistes ont été condamnés il y a quelques jours.
Je vais y revenir. Deux médias qui peuvent s'exprimer extrêmement librement et sans que cela ne pose problème ou qu'il y ait des poursuites particulières. Concernant l'autorité judiciaire, que l'on accuse de ne pas être indépendante, je signale que le 25 février dernier, dans cette affaire d'Hundar, justement, donc ce journaliste du quotidien Cumhuriyet, la Cour constitutionnelle turque est venue sanctionner la procédure en indiquant qu'en effet, le droit à la liberté d'expression avait été violé. Ce qui montre bien que le Conseil constitutionnel turc est indépendant et qu'il existe réellement en Turquie une justice complètement indépendante du
donc,
pouvoir.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu des abus de l'exécutif, mais ils ont été sanctionnés par une justice indépendante.
Comme dans toute démocratie.
Il y a aujourd'hui, il reste une seule institution juridique qui est encore indépendante du pouvoir d'Erdogan, parce que c'est une question d'arithmétique. Ce sont des membres qui ont été nommés par des anciens présidents, et c'est pour ça qu'ils expriment encore des avis qui contredisent les décisions d'Erdogan. Et c'est pour ça, précisément, que M. Erdogan a critiqué la décision de la Cour constitutionnelle en disant que je ne reconnais pas cette décision. Il a qualifié les juges de la Cour constitutionnelle comme des traîtres. Et ils ont été ciblés par des médias pro-Erdogan pendant des semaines et des semaines. Ils ont publié les photos du président de la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas vraiment l'indépendance de justice. On ne peut pas parler vraiment en Turquie. C'est comme si tout est rose, tout est beau. Et c'est un fait. C'est pas une critique. Voilà.
Mais alors, le rédacteur en chef de Zaman qui a été mis sous tutelle il y a quelques jours a écrit un papier qui a été traduit dans lequel il dit « J'ai eu l'impression d'être effectivement instrumentalisé par cette loi antiterroriste », c'est ce que nous disait Martin Pradel il y a quelques minutes, parce que je suis passé en quelques heures du statut de journaliste au statut de possible terroriste. Alors est-ce que ça c'est une réalité en Turquie? Est-ce qu'on peut faire du journalisme aujourd'hui en Turquie?
Bah écoutez, en Turquie, les moyens pour un journalisme indépendant n'existent plus. Il y a des combattants, il y a des journalistes qui résistent encore, mais c'est très très difficile. Donc ils risquent leur vie, ils risquent la prison, et c'est pas très facile. Je vais juste donner quelques chiffres. Par exemple, le nombre de journalistes en chômage a dépassé 7000 cette année, et sans compter les 600 journalistes de Zaman qui ont été virés il y a deux mois. Donc, parce qu'ils n'ont pas le droit d'inscrire à Pôle emploi, ils n'ont pas le droit de toucher leur salaire de chômage. Et le taux de chômage dans les médias est 3 fois plus que le moyen global. Il y a 17 chaînes de télé ont été retirées du satellite Turksat en 8 mois. Et 150 sites d'information ont été censurés. 1700 comptes Twitter ont été censurés en Turquie. Et plus de 70 journalistes sont condamnés pour l'insulte au président. Et plus de 50 journalistes ont été arrêtés et mis en détention. Il y a actuellement 33 journalistes qui sont en prison.
C'est le truc des murs. On a l'impression quand même que vous décrivez pas la même réalité.
La Turquie est en proie, madame, à un risque terroriste majeur qui existe notamment par l'intermédiaire de Daesh, qui, vous le savez, a commis des actes terroristes récents sur le territoire à travers le PKK.
Mais est-ce que ça justifie pour autant ce qu'il se passe ?
Qui est reconnue par la France, l'Union européenne et les États-Unis comme telle. Un risque également patent à ses frontières, puisque la plupart de ses voisins sont dans une guerre civile ou une guerre avec un autre des voisins, je parle de la Syrie, de l'Irak ou de l'Arménie. Il y a donc une situation
mais
très instable.
Sans nier le risque,
qui est augmenté par le fait que, pour le quotidien Zaman par exemple, une confrérie religieuse, à savoir la confrérie Gulen, a tenté en décembre 2013 de fomenter un coup d'État contre le régime turc. Ce qui bien que la justice turque a dû réagir, et que dans ce cadre-là, contre le terrorisme international, la justice turque se doit de réagir.
Alors j'ajoute quand même que certains expliquent aussi cette vague antiterroriste, sans nier le risque qui est évidemment réel, par la désorganisation des services de police, qui serait une conséquence aussi des purges au sein de la police. C'est ce qu'on peut lire dans une enquête de Mediapart notamment. Mais bon,
des purges qui ont été faites suite à l'infiltration par cette confrérie d'éléments qui souhaitaient renverser le pouvoir de façon non démocratique.
Ou à la suite d'un scandale de corruption qui a été dénoncé et qui touchait notamment le parti de l'AKP et le gouvernement Erdogan. Merci beaucoup messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Emre Demir, rédacteur en chef et fondateur de l'hebdomadaire Zaman France. Selçuk Demir, avocat secrétaire général de l'Alliance des juristes franco-turcs et conseiller juridique du consulat général de Turquie à Paris. Merci beaucoup messieurs, merci également à Valentin Vaner et à Florence Ponce. Dans quelques secondes, c'est un nouveau journal sur RFI.
Tous les jours, accent de